Vincent Lapierre, bonjour.
Bonjour Anaïs.
Vous êtes reporter indépendant sur YouTube et votre travail repose sur un principe simple. Donner la parole à tout le monde, sans filtre et sans agenda. Une démarche qui, inévitablement, vous a valu les foudres d'une certaine gauche qui préfère décider à votre place de ce que le public est en droit d'entendre. Mais avant de commencer cet entretien, je souhaite adresser un message à nos auditeurs, car Frontières a besoin de vous, de votre soutien. Nous avons déjà démontré ce dont nous sommes capables face à l'extrême gauche, c'est-à-dire des enquêtes, des révélations, des reportages de terrain, et aujourd'hui nous entendons faire exactement la même chose, mais face au bloc central. Notre objectif est de couvrir l'intégralité de la prochaine élection présidentielle avec le sérieux et la rigueur que ce rendez-vous démocratique exige, c'est-à-dire avec une présence constante sur le terrain, des couvertures des meetings, révélations sur les réseaux d'influence économique et administrative, des analyses des conflits d'intérêts potentiels entre des cabinets de conseil impliqués dans la politique et ce, depuis 2017. Donc nous avons besoin de vous. Faites un don dès maintenant sur www.frontieresmedia.fr ou en cliquant sur le lien en description. Vincent, vous connaissez certainement la tradition sur ce fauteuil rouge. Nous aimons demander à nos invités ce qu'ils pensent de certaines citations. Je vais vous en citer une, c'est celle d'Homère dans l'Iliade. « Je sais que seuls les lâches reculent dans la mêlée, le brave, lui, combat de pied ferme, qu'il frappe ou qu'il soit frappé. »
C'est une belle citation, très évocatrice. Elle me rappelle quelque chose de précis, figurez-vous Anaïs. Il y a à peu près 10 ans, je suis allé à Marseille pour un reportage et un jeune militant de l'Action française m'avait offert un t-shirt sur lequel il était écrit cette phrase au dos, c'est donc cette phrase résumée, du combat, seuls les lâches s'écartent. Et il m'a dit, Vincent, je te donne ça parce que toi, tu t'écartes pas du combat. Ça m'avait beaucoup touché, ça m'avait marqué, mais ça révèle aussi quelque chose de profondément triste, c'est que donner la parole à tous, ce que je fais depuis 10 ans, est un combat en France aujourd'hui, tellement les tensions sont fortes dans notre pays. Et j'incite, évidemment, j'encourage, du moins j'espère que mon travail permettra aux gens de se lever eux aussi. En gros, c'est ça que j'essaye de faire, c'est de dire la France est dans une situation critique. Moi, c'est ce que je vois tous les jours dans mes reportages, vraiment dans une situation critique. Sans exagérer, hein, je suis quelqu'un de naturellement optimiste dans la vie. Et pourtant, je ne peux que faire ce constat quand j'observe la France, où que j'aille d'ailleurs, même dans les villages maintenant. Et il est temps que les Français voient les choses en face et combattent, pour suivre le conseil d'Homère. Alors je ne pense pas que les Français soient lâches, c'est là où la morale héroïque grecque est un peu, je dirais, extrémiste. On ne recule pas forcément devant le combat par lâcheté. Je pense que les Français, aujourd'hui, sont aveuglés idéologiquement, pour certains. De moins en moins, en réalité. Mais ils vivent dans une sorte de rêve qu'on leur a vendu, le vivre ensemble. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, beaucoup de Français en sortent de ce rêve comme d'un cauchemar. Ils se rendent compte que l'immigration massive a des conséquences négatives et peut-être irréversibles sur la France. Ils en sortent. Mais pour tous les autres, il est temps, je crois, de regarder les choses en face et d'appeler un chat un chat. Voilà. Le vivre ensemble ne marche pas. C'était une belle théorie. Moi aussi, je peux aimer la théorie, je la trouve très stylée, je la trouve très belle. On va faire venir des gens, puis on va tous vivre ensemble, on va danser autour du feu, ça va être génial. Le truc, c'est qu'en fait, l'humain n'est pas comme ça, intrinsèquement, ontologiquement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça peut fonctionner comme ça, oui, il y a une part de vrai dans cette théorie, c'est à petite dose. À petite dose, et de manière choisie et sélective, l'immigration peut être même très bénéfique pour un pays. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vécu depuis 40 ans. Voilà. Donc, la théorie éclate en morceaux et on a face à nous la réalité qui est qu'on est au devant d'une France qui risque d'éclater. Voilà, je le dis très solennellement, mais très sérieusement malheureusement, c'est ce qui nous pend au nez. Il faut réagir très vite, c'est maintenant. Il faut aller au combat tout de suite. Voilà, c'est le message que je voudrais faire passer là dans les 5 premières minutes de cette interview.
Vincent, cela fait plusieurs années, vous venez de dire exactement 10 années, que vous arpentez le terrain en France, micro en main, pour recueillir la parole des Français sur l'actualité. Un travail de proximité qui vous a permis de construire une audience très significative sur les réseaux sociaux et de vous imposer comme une voix singulière dans le paysage médiatique indépendant. Vincent, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons prendre le temps d'explorer ensemble votre parcours, votre regard sur la France et ce que ce travail vous a appris depuis ce fauteuil rouge. Pour commencer, en préparant cet entretien, j'ai parcouru les commentaires sous vos vidéos et certains commentaires m'ont interpellé, notamment le fait que les personnes se demandent si vous êtes de gauche ou de droite. Alors Vincent Lapierre, êtes-vous de gauche ou de droite?
Alors, je pourrais faire la réponse de De Gaulle, qui disait qu'il n'était ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Ça dépend sous quel angle on regarde cette question. C'est vrai qu'une partie de la droite considère que je suis quelqu'un de gauche, et évidemment, la gauche et l'extrême gauche considèrent que je suis d'extrême ultra-droite. Donc, c'est intéressant quand même. Ça prouve qu'il y a, il y a un sujet. Moi, si je devais déterminer mon propre positionnement politique, je dirais que cette question n'a pas lieu d'être. Cette question est pertinente dans un pays qui fonctionne normalement. Dès lors que ce pays est sous invasion migratoire, parce que je considère que c'est ce que nous vivons aujourd'hui en France, aujourd'hui, avec 500 000 entrées par an, pour moi, nous sommes dans une configuration d'invasion migratoire, et bien cette question, en fait, est désuète et marginale, anecdotique. Effectivement, dans un pays qui n'est pas sous invasion migratoire, je pourrais me considérer comme étant de gauche, je suis plutôt pour la sécurité sociale, ça me plaît. L'idée que un peuple va aider les plus démunis, va redistribuer les richesses, etc. Cette idée-là me plaît dans la théorie. Je pourrais me considérer comme étant de gauche, d'ailleurs, je viens de la gauche, puisque j'ai traduit plus de 100 discours d'Hugo Chavez qui n'est pas considéré comme un dirigeant spécialement d'extrême droite. Mes parents, mon père était du Parti communiste. Si je peux dire, même dans mon enfance, je lui tenais la main, je l'accompagnais dans des réunions communistes, etc. Donc je viens de ce milieu-là. Mais effectivement, depuis, donc j'ai 41 ans, et depuis mon enfance, il se sont passées certaines choses en France qui font que pour moi, que nous débattions ensemble de savoir si je suis plus ou moins d'État, plus ou moins de prélèvements sociaux, etc., ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que pour moi, encore une fois, le pays est sous invasion migratoire. Et donc là, et c'est d'ailleurs maintenant la ligne de clivage, la seule qui existe entre la gauche et la droite. C'est est-ce que tu remets en question la politique migratoire qui a eu lieu en France pendant 40 ans? Si ta réponse est oui, tu es considéré comme étant quelqu'un d'extrême droite. La question, c'est ça le clivage gauche-droite aujourd'hui. Donc si on parle du clivage actuel, je suis de droite, mais en réalité, au fond, ma tendance naturelle irait plutôt vers des idées, même je dirais de gauche, ouais, pourquoi pas, bien sûr. Un État fort, un État qui a des pouvoirs régaliens forts. Même si, encore une fois, de ce point de vue-là, j'évolue dans ma pensée. Et je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, la gauche a souvent raison dans la théorie et souvent tort dans la pratique. C'est-à-dire que quand je regarde l'idée de la gauche qui consiste à dire on va tous faire un pot commun, parce que c'est ça l'idée de l'impôt sur le revenu, et des taxes, et de la TVA, et de tout ce qui nous, comment dirais-je, merde, le mot m'échappe, cette pression qu'on ressent tous au niveau des impôts, ça part de cette idée, c'est on va tous faire pot commun, on va tous mettre notre argent en commun au milieu de la pièce. Et puis, avec cet argent, on va déléguer ça à des gens qui vont utiliser cet argent pour construire des hôpitaux, construire des routes, construire des trains. C'est génial. Moi, je suis pour. Je l'embrasse sur les pieds, cette théorie, bien sûr. Le problème, c'est que dans les faits, ça ne marche pas comme ça. Parce que quand on a un groupe d'humains et qu'on met de l'argent au milieu d'une pièce et qu'on dit à des gens, vous allez vous en occuper, eh ben, il se passe quelque chose de particulier. C'est que souvent, cet argent est mal employé. C'est ce qu'on observe. Et que les gens qui sont chargés de gérer cet argent ont tendance à l'utiliser d'une certaine façon, à l'utiliser pour leur propre intérêt ou suivant leur propre idéologie à eux, qui ne correspondent pas forcément à l'idéologie de l'entièreté de la population. Donc, Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vit tous. C'est-à-dire que nous sommes tous pris en otage par l'impôt sur le revenu, les taxes, etc., qui servent à faire des choses qui nous déplaisent beaucoup, par exemple accueillir des millions de gens. Et ben, on aimerait que ça change. C'est pour ça d'ailleurs qu'existe la démocratie, pour faire changer les choses. Mais c'est dur. C'est dur de faire bouger le système quand il est construit de cette façon. Donc, je reviens progressivement sur ces idées qui sont effectivement un peu, je dirais, naïve sur l'impôt sur le revenu, sur le fonctionnement de la société qui serait un fonctionnement plus de gauche. Et je me dis qu'au final, les idées droites sont peut-être plus réalistes, moins stylées, moins attirantes. C'est sûr que quand on a 15 ans, ça fait moins rêver. Mais par contre, ça fait plus fonctionnel. C'est ça que je veux dire. Voilà.
Dans votre travail, vous êtes en totale indépendance. Est-ce que c'est une liberté ou parfois un poids ?
Alors c'est à la fois choisi et subi, c'est une très bonne question. C'est choisi dans la mesure où évidemment je veux pas... Il est très important pour moi de ne pas recevoir de directives de quiconque. Voilà, donc c'est le cas, je le dis. Personne me choisit mes sujets à ma place. Personne me dit quoi dire dans mes reportages. Je suis libre et indépendant à 100% de ce point de vue-là. Maintenant, étant donné, je dirais, ma trajectoire, mon histoire, ma réputation, j'ai pas trop le choix que d'être indépendant. C'est-à-dire que, disons que du côté des partis institutionnels, il y a une grosse méfiance. Même les partis considérés comme étant à droite se méfient parce qu'ils se disent « c'est Vincent quand même vu son passé, on va pas trop lui parler, etc. » Donc pour certaines interviews, pour certains reportages, ça peut être compliqué même à droite. Ce qui ne me gêne pas en soi. Hein. Moi, je préfère parler... par exemple, s'il y a un meeting d'un homme politique, je préfère 1000 fois parler aux gens qui vont voter pour la personne plutôt que pour le politique qui est sur l'estrade. Pour moi, c'est la vraie matière et le vrai intérêt pour moi dans les interviews. Il va vers ces gens qui votent. Je veux comprendre pourquoi ils votent pour telle ou telle personne. Alors qu'au final, donner la parole à un homme politique, il va répéter ce qu'il dit sur tous les plateaux télé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est la spécificité de mes reportages. Je ne sais pas si vous avez vu, mais parfois, je suis face à un cas de figure où j'ai d'un côté des Français de tous les jours et de l'autre des gens connus. Généralement, je refuse d'interviewer les gens connus pour aller vers les Français qui vont voir la personne connue. Je trouve que l'intérêt est là pour moi. Donc non, je suis 100% indépendant. Effectivement, c'est un choix, mais c'est parfois subi puisqu'on me fait bien sentir que je ne suis pas le bienvenu non plus dans toutes les... Et pareil pour les institutions. Il est très difficile pour moi de faire un reportage parmi la police. J'ai beaucoup de policiers qui me contactent, qui aimeraient beaucoup que je fasse un reportage avec eux, mais ce n'est pas possible parce que c'est impossible pour moi d'obtenir l'agrément du ministère de l'Intérieur pour faire un reportage dans une brigade de police. Impossible. Pareil à l'hôpital, pareil dans toutes les institutions. Donc, ça me contraint malgré tout. Voilà. C'est pour ça que je suis très bien dans la rue, je suis très bien à Pigalle où je fais mes micro-trottoirs, je suis très bien parmi les gens, les Français de tous les jours, et c'est ça mon milieu.
Vous avez parlé de donner la voix à tout le monde. Comment est-ce que vous vivez les attaques et les tentatives de décrédibilisation dont vous faites l'objet sur le terrain ?
Alors, il y a deux hommes en moi. Il y a un homme qui l'affronte, je crois, avec un certain courage, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 10 ans que je le fais, 10 ans que je subis des insultes, des crachats, même parfois des coups. Et pourtant, je suis toujours là à le faire. Et le vrai courage, je crois que c'est ça. C'est de continuer malgré les risques. Et puis, il y a un autre homme en moi qui est celui qui subit toutes ces insultes tous les jours. Il faut voir ce que ça veut dire. Je crois que beaucoup de gens ne mesurent pas ce que ça veut dire en réalité. Ça veut dire qu'à tout moment de ta vie, tu es aux aguets parce que tu peux te faire insulter, évidemment. Et agressé. C'est-à-dire que, évidemment, quand je suis en tournage, le risque pour moi est réel qu'un mec arrive par derrière, mette un coup dans la nuque. Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé à une manifestation des Gilets jaunes à Toulouse. des antifas sont arrivés par derrière. L'un d'entre eux m'a frappé à la nuque. J'ai cru que j'allais m'évanouir sur le coup. Puis en fait, je me suis rattrapé et je suis juste allé à l'hôpital. Hôpital qui d'ailleurs était ultra saturé. On m'a demandé d'attendre pendant 7 heures. Et j'ai dit, bon, écoutez les gars, je pars, c'est bon, je me soignerai moi-même. C'est la France en 2020. À l'époque, c'était 2018. Ça s'est aggravé depuis. Mais à tout moment, ça peut m'arriver dans ma vie. C'est-à-dire que quelqu'un m'attaque par derrière. Et donc, ça te met dans des dispositions psychologiques qui sont quand même très particulières, où tu dois, par exemple, porter sur toi une gazeuse à tout moment. D'ailleurs, je le dis parce que la dernière fois, des personnes de la RATP m'ont palpé, ont senti ma bombe lacrymogène et m'ont mis 400 € d'amende pour ça. Pourtant, ils m'ont reconnu parce que je leur ai dit, attendez, je suis quand même menacé de mort. C'était 2 semaines après Quentin qui s'est fait tabasser à mort dans la rue par des antifas. Je leur dis, c'est quand même, enfin, avoir une bombe au poivre, c'est quand même le minimum, quoi. Je veux dire, vous voulez quoi? Que j'aille tout nu devant le. Enfin, je veux dire, c'est. Et ils le comprenaient. Ils comprenaient. Ils disaient, ouais, on connaît ton travail, t'es courageux, mais on est obligé, en fait, c'est la loi. Ok. Ce que j'ai pensé très fort dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, eux, ils auraient mis une amende à Samuel Paty parce qu'il avait un. Il portait un marteau dans son sac, quoi. C'est interdit. Il aurait mis une amende. Non, mais je veux dire. C'est quand même dingue. On vit une situation où, quand on prend la parole publiquement pour dire certaines choses, on est en danger physique et on n'a pas le droit de se défendre. Ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, il y a ça, cette partie-là. Il y a aussi la partie commentaires, évidemment, sur les réseaux sociaux. Parfois, je vois des gens de gauche qui se prennent des shitstorms sur Internet parce qu'ils disent des trucs et qui sont. Leurs paroles sont clippées par, je sais pas, French Carcan, qui fait du très bon boulot, Twitch gauchiste, YouTube gauchiste, etc. Ils font de l'excellent boulot. Ils clippent des conférences ou des directs de gens de gauche. Et du coup, ces personnes-là se prennent en retour un shitstorm parce qu'ils ont dit des conneries, etc. Et ils crient, ils disent immédiatement, oh mon Dieu, c'est horrible. Je me suis pris des commentaires négatifs, etc. Et ils pensent que c'est ça le harcèlement. Bah, les gars, regardez ce que vous faites, vous, aux gens comme moi, en fait. Nous, c'est tous les jours. Et c'est des menaces de mort aussi, beaucoup. On va te choper, on va t'attraper. Ça, je reçois tous les jours. Donc il y a ça aussi, cette pression-là. Puis il y a la pression médiatique. Le fait d'être diabolisé en permanence, dès qu'on parle de toi dans les médias, c'est t'es un néo-fasciste, t'es un néo-nazi, t'es un descendant d'Hitler. Je veux dire, c'est délirant, quoi. Délirant. Ce qui est d'ailleurs. Me met en danger en soi. Il faut bien comprendre que quand l'extrême gauche ou les médias font ça, ils me mettent en danger. Parce que tu as des personnes en France qui vont prendre ça au premier degré et qui vont se dire, lui mérite de se faire tabasser, voire pire, parce que c'est un adepte des théories fascistes de Mussolini. Théorie que d'ailleurs, alors là, je vous le dis, en avant-première, je ne connais pas ces théories, je n'ai pas lu Mussolini, je ne sais pas ce qu'il a écrit ou dit. Donc, me traiter de fasciste, c'est ridicule. En fait, ça veut juste dire, tu ne penses pas comme nous, donc tu sors de l'humanité, tu es un Untermensch, tu mérites la mort. C'est délirant, c'est délirant, délirant. Mais donc, il y a ces pressions-là, et puis aussi, par ailleurs, Mediapart, l'humanité, qui vont fouiner, qui vont. On sent ça, on sent cette pression-là. Donc, au quotidien, c'est dur. Donc, il y a l'homme qui fait face, parce qu'au fond, j'estime que c'est mon devoir de Français, tout simplement, de faire face et de dire, écoutez, on est dans un pays où on a encore la liberté de dire ce qu'on veut, donc je vais dire ce que je veux, et puis je vais interviewer les gens, d'ailleurs tout le monde en soi, parce que je donne même la parole aux gens qui sont très à gauche, ça ne me dérange pas, et au contraire, j'aime bien ça. Je donne la parole à tout le monde, je dis ce que je pense évidemment, j'ai une ligne éditoriale, c'est évident, mais comme de la même manière que Street Press a une ligne éditoriale et peut interviewer qui ils veulent, je veux dire, c'est pas gênant, et je suis même pour ça, et je défendrai leur liberté à interviewer qui ils veulent et à dire ce qu'ils ont envie de dire, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, j'aimerais bien que de l'autre côté du spectre politique, on ait le droit de le faire sans se faire tabasser et sans risquer la mort. Ce serait quand même sympa. J'aimerais bien qu'ils l'admettent, eux aussi. Et donc il y a l'homme qui fait face parce qu'il n'a pas le choix, il considère que c'est son devoir, et puis il y a l'homme en fait qui le vit dans sa chair au quotidien et qui trouve ça très compliqué quand même. On se sent très seul. On se sent très seul.
Pendant ces 10 ans de terrain, Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué et pourquoi?
Ah, c'est une bonne question, ça. Oh, c'est une bonne question. Peut-être. Ah, y a beaucoup de gens qui m'ont marqué. Beaucoup de gens qui m'ont marqué. Et ça. Tiens, je vais donner Par exemple, Pascal, ce SDF de la place de Clichy. J'étais en reportage tout à l'heure et justement, je lui parlais encore. Qui s'est fait virer. En fait, souvent, quand on est à la rue, on se met à plusieurs, parce qu'on est plus fort à plusieurs. Lui, il a un compagnon avec qui il est beaucoup. Ils avaient réussi à squatter une petite maison abandonnée en dehors de Paris. Et ils étaient là depuis quelques années. Et puis un jour, ils se sont fait éjecter, ils avaient des chiens et tout. Et ils se sont fait éjecter du jour au lendemain, et on a tué leur chien. Ça m'avait beaucoup marqué. Et maintenant, ils sont à l'hôtel, j'avais monté une cagnotte. J'ai réussi à récolter, je sais plus, 23 000 euros et ça les a aidés. Mais Pascal, par exemple, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué, ouais, beaucoup marqué. Et d'ailleurs, quand vous parlez au SDF français, ce que je fais régulièrement, parce que j'aime beaucoup le faire, ils vous tiennent un discours que la gauche qualifierait d'extrême droite. Parce que eux sont les premières victimes de ce qui se passe aujourd'hui en France. Parce que ceux qui débarquent d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, qui n'ont rien et qui ont droit à des avantages sociaux, enfin par exemple aux soins gratuits ou à un logement d'urgence, etc., ben ils le prennent à qui, au fond? Ils le prennent au SDF français directement. Et donc, ce sont les premières victimes de l'immigration massive, ce sont eux. Et cette rencontre-là m'a fait prendre conscience de ça. J'en avais pas autant conscience avant de parler à Pascal. Donc Pascal est l'un d'entre eux, oui, bien sûr. Bien sûr. Je me souviens aussi, Gare du Nord, j'avais rencontré, parce que je parle aussi aux migrants, évidemment, qui débarquent. L'un d'entre eux me parlait. Il venait d'arriver, ça faisait 3 semaines qu'il venait d'arriver d'Afrique. Il est arrivé en bateau, il avait un problème à la jambe. Et il allait se faire opérer en France pour sa jambe. Et il galérait à l'aéroport Charles de Gaulle. Lui, son secteur, c'était l'aéroport Charles de Gaulle. Il était là-bas autour de. Il mendiait autour de l'aéroport Charles de Gaulle. Et il avait un problème à la jambe. Et sa situation m'avait. Parce que, évidemment, je condamne le phénomène de l'immigration massive. Mais je suis sensible à la situation que j'ai de l'humain que j'ai en face de moi. Et c'est des situations dramatiques, évidemment. Simplement. Ce que je dis, en fait, et que je peux même dire devant lui, c'est que pour moi, la solution n'est pas que tous ceux qui souffrent dans le monde viennent en France. Ça ne va pas le faire. Ça va faire craquer le système social français d'une manière. C'est évident, c'est bon sens, c'est logique. On a un système social qui est configuré pour une population française, avec une croissance démographique qui est déterminée. Si par-dessus ça, vous ajoutez des gens qui sont dans le besoin et que vous en ajoutez des millions, ben, ça ne peut pas tenir, en fait. Ça ne peut que faire craquer le système, et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Quand vous allez à l'hôpital, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous observez. Mais donc lui aussi, par exemple, m'a marqué. En réalité, chaque rencontre est marquante. Tous ces gens qui souffrent en France, et ils sont de plus en plus nombreux, mais je pourrais parler aussi de cet agriculteur que je suis allé voir, et qui me disait qu'il galérait, et son père me dit carrément dans le reportage, mais moi je pense à me suicider tous les jours. Ça aussi, c'est terrible. Ça vous marque. Vous êtes en face, vous prenez cette vérité comme ça, en pleine poire. Il y a trop de Français qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent beaucoup. Si mon travail peut permettre aux gens de se rendre compte de ça, bah, j'aurai fait quelque chose d'utile dans ma vie. Voilà.
Vous êtes exclusivement sur YouTube. Pourquoi YouTube plutôt que la télévision ou la presse écrite?
Parce que. Ah, c'est marrant cette question, je ne m'attends pas à ces questions. Tout simplement parce que Parce que quand on se lance et qu'on n'est personne, on n'a que YouTube. Voilà. Et c'est mon parcours. Au départ, moi, je donne des cours à la fac. Il y a très longtemps de ça. J'ai fait un doctorat en économie. À Grenoble, je donnais des cours à la faculté en tant qu'attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche. Et ensuite, quelle plateforme peut accueillir quelqu'un qui ne vient pas du monde du journalisme à YouTube. Et ça a bien marché tout de suite. Et me voici.
Récemment, vous avez eu des échanges publics avec le PDG de Proton sur X. Pouvez-vous nous en expliquer la nature et ce qu'ils ont révélé sur la question de la liberté d'expression numérique ?
Tiens, ça fait partie des choses que subissent les influenceurs de droite, en plus des possibles agressions, des insultes dans la rue, des insultes sur les réseaux sociaux, de la pression des médias. Il y a la stratégie, d'ailleurs très intelligente, de la gauche et de l'extrême gauche, qui consiste à assécher les finances des gens qui s'expriment à droite. Et ça a fonctionné avec Proton. Proton, en fait, je fais un partenariat, ça marche de manière très simple. Une entreprise me contacte, ou alors je contacte une entreprise, et on décide de placer une publicité au début d'un de mes reportages, et l'entreprise me rémunère. Voilà. Rien de plus simple. La rémunération est fonction du nombre de vues de la vidéo, et donc voilà, c'est intéressant pour elle, parce que ça lui donne une exposition vis-à-vis d'un public qui est peut-être par ailleurs difficile à atteindre par d'autres voies. Et moi, bah, ça me fait une rémunération supplémentaire et c'est gagnant-gagnant. Et là, en l'occurrence, avec Proton, je crois que c'est nous qui les avons contactés. Ils ont accepté de faire une première publicité avec moi. Et l'idée, c'était de faire un partenariat sur quelques vidéos. Et à la suite de cette première publicité que j'avais faite dans une vidéo, où d'ailleurs, au passage, je vais voir un camp de Roms, où je donne la parole à des Roms. Enfin, je ne vois pas où est la dimension d'extrême droite là-dedans, de donner la parole à des Roms qui galèrent, leur donner l'occasion de s'exprimer. Où je vais voir effectivement la situation au nord de Paris qui est compliquée, mais ça, je veux dire, c'est un droit démocratique de dénoncer ce qui se passe à Aubervilliers. Je ne crois pas que ce soit spécifiquement d'extrême droite que de le faire. Et donc dans ce reportage, j'avais placé une publicité pour Proton Mail et sur Reddit, est née une polémique initiée par l'extrême gauche en disant « Regardez, Proton Mail finance l'extrême droite française. Voilà. » Et le truc, c'est que Proton Mail, au lieu de dire ce qu'ils auraient dû faire, ils auraient dû dire « Merci pour votre analyse, mais nous avons nous-mêmes analysé la situation et il se trouve que dans la vidéo incriminée, il n'y a aucun propos d'extrême droite qui est tenu. Donc, c'est sympa, mais on s'en fout de ce que vous racontez, quoi. » Parce qu'au fond, c'est une minorité de gens qui font ça. Proton Mail aurait pu dire ça. Ça aurait été la parole juste. Et au lieu de ça, ils ont choisi de dire « Ah oui, excusez-nous, pardon, on ne savait pas qui c'était. C'est vrai qu'il y a des polémiques, on enlève. Merci de votre vigilance. Et continuez à être vigilant et à nous dire quand on commet des erreurs. » Donc super la réponse, merci. Donc ça valide complètement la grille de lecture d'extrême gauche qui consiste à dire que je suis d'extrême droite. Donc, sur Twitter, sur X, qui est encore un espace de liberté d'expression, et merci à Elon Musk pour ça, je réponds à Proton Mail en leur disant « Écoutez les gars, dites-moi ce que j'ai dit d'extrême, en fait, quels sont les propos extrémistes que vous avez retenus contre moi pour répondre ça à cette minorité d'extrême gauche qui prétend que je suis d'extrême droite, et pour laquelle d'ailleurs tous ceux qui sont à leur droite sont d'extrême droite. » Parce que pour eux, quotidien, maintenant, et d'extrême droite. Ce sont des fachos. Donc ça veut dire qu'en fait, on a littéralement peut-être 90% de la population française qui est d'extrême droite pour l'extrême gauche. Donc c'est du délire, évidemment. Enfin, n'importe quelle personne de sensée, et là je le redis face caméra à notre ami PDG de Proton, n'importe quelle personne de sensée comprend que ce discours est délirant. Je ne suis pas un extrémiste. Et je vais même vous dire, pour certaines personnes d'extrême droite ou de droite, je suis d'extrême gauche, je suis de gauche, je suis un gauchiste. Donc c'est compliqué. Donc voilà, on a un dialogue de sourds sur X, et au final, son discours, c'est de dire « tu es polémique, donc on ne peut pas faire de collaboration avec toi ». Ce que, d'un point de vue économique même, je pourrais comprendre en soi. Je peux comprendre que, bon, bah, là, il y a un sujet chaud, le mec se fait harceler par une bande organisée d'extrême-gauche, donc bon, on va pas faire un truc avec lui, quoi. Mais il y a des attitudes plus courageuses que ça, quoi. On peut envoyer Proton Mail à Homer, par exemple, à l'Iliade. Il y a des attitudes plus courageuse que celle-ci. Voilà. Mais d'ailleurs, à toutes ces entreprises qui cèdent au discours d'extrême gauche, je leur dis, vous vivez dans... C'est un peu la réponse d'ailleurs des Hobbits aux Ents dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Quand les Ents disent aux deux Hobbits, là, je ne me souviens plus de leur nom, non mais en fait, nous on s'en fout, on va vous déposer à l'orée de la forêt, vous allez faire votre vie et nous la nôtre. Et là, les Hobbits répondent, mais vous faites partie de ce monde. C'est-à-dire que vous aussi, Saruman, il va venir vous chercher un jour. Et le truc, c'est que c'est un peu la réponse que j'ai envie de faire à toutes ces entreprises qui se couchent face à l'extrême gauche, c'est de leur dire, mais l'effondrement de la France, en plus le gars, qui est par ailleurs peut-être fort sympathique, ce PDG, vit en Suisse. Suisse qui applique à la lettre tout ce que je dis, c'est-à-dire protéger les frontières, ils sont en dehors de l'Union Européenne, ils ne sont pas dans l'espace Schengen, ils ont encore des frontières avec des gars qui surveillent les frontières, les allers-retours. Ils ont raison, c'est un pays normal, quoi. Je veux dire, c'est ce que fait la Chine, ce que fait le Japon, ce que fait l'Australie, ce que font les États-Unis, tous les pays d'Amérique du Sud, tous les pays d'Afrique, les pays du Maghreb, tout le monde fait ça. Je veux dire ça en France est considéré par une minorité d'extrême gauche comme étant d'extrême droite, mais monsieur le PDG de Proton, vous vivez dans un pays qui applique ce que je dis. Donc, à tous ces gens qui cèdent à l'extrême gauche, vous vivez dans ce monde. Et si la France s'effondre, vous aurez vous aussi plus que vos yeux pour pleurer, parce que vous n'allez pas vendre des VPN à une France qui cède à la guerre civile, qui se noie, quoi. Je veux dire, si la France s'effondre, votre business aussi s'effondrera. Je veux dire, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, après ça, je m'étais dit, putain, en fait, il faudrait qu'il y ait des boîtes qui aient le courage de dire, mais ce discours n'est pas un discours d'extrême droite, c'est un discours patriote. Je vais même vous dire, Anaïs, ce discours-là que je tiens, parce que moi, je suis un amoureux d'histoire, j'ai lu tous les discours de Robespierre. Tous. J'étais fan de Robespierre dans ma jeunesse. On peut être d'accord ou pas d'accord avec la terreur, etc. Ça, c'est encore un autre sujet, mais sur les discours politiques, sur la manière dont le comité de salut public a gouverné la France. Mais ils n'auraient pas dit autre chose. Évidemment qu'il faut que la France ait des frontières. Et quand ils parlaient du fait que... Parce que c'est là que c'est devenu concret, que c'est né l'idée que toute personne qui a bien mérité de la nation, ce sont les termes des révolutionnaires français à la tribune de la Convention nationale, toute personne qui a bien mérité de la nation peut accéder à la citoyenneté française. C'est l'idée, tu t'es battu avec nous, tu es un frère. Mais c'est qui a bien mérité de la nation? Je veux dire, je souligne cette phrase. C'est pas tu débarques en France, tu poses le pied en France, et puis si tu fais la procédure administrative, tu deviendras français automatiquement. Je veux dire, non, c'est pas ça l'idée. Donc même les révolutionnaires français, qui ne sont pas connus pour être d'extrême droite, auraient tenu le même discours que moi. Et souvent d'ailleurs, on me met en contradiction avec Chavez. On me dit, ouais, mais toi, de toute façon, t'es passé de Chavez à l'extrême droite. Mais les gars, vous vous rendez pas compte de ce que c'est l'Amérique du Sud. La gauche en Amérique du Sud, c'est l'extrême droite en France. Marine Le Pen, vous la mettez en Amérique du Sud, elle est de centre-gauche, en vérité. Et Chavez, qui était un militaire catholique, qui portait sur lui en permanence son drapeau national, sur lui en permanence, vous croyez qu'il aurait ouvert ses frontières aux 80 et qu'il aurait dit à la terre entière J'ai même connu un conseiller de Chavez qui travaillait à Miraflores, au palais présidentiel. Je lui demande alors, toi, comment ça se passe pour tes papiers, pour le fait de rester au Venezuela, quoi. Il me dit, c'est très compliqué. Le mec est conseiller d'Hugo Chavez, littéralement. Le mec, il rend un rapport tous les jours qui tombe sur le bureau du président. Lui-même me dit, c'est très compliqué. Ils sont très méfiants. Et je considère que cette attitude d'un pays qui consiste à être méfiant vis-à-vis des gens qui rentrent est normale. C'est comme chez soi, on sonne à votre porte. Eh ben, vous regardez, il y a un œilleton, c'est fait pour ça, vous regardez pas l'œilleton, qui c'est. Si la personne a l'air suspecte, vous ouvrez pas, vous dites vous voulez quoi, qui vous êtes, à travers la porte, mais je veux dire, la porte est là, la frontière est là, physique. Et puis si jamais ça vous semble un peu, que la personne vous semble de confiance, vous en trouverez, même avec la petite chaînette s'il le faut. Mais je veux dire, c'est ça, même les gauchistes font ça. Les gauchistes ne vivent pas sans frontières. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais allé la dernière fois au bois de Vincennes. Il se trouve que le bois de Vincennes est sous une mini-invasion migratoire. Il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'ils peuvent aller là-bas, parce qu'en fait, ça dépend administrativement de Paris. Ça ne dépend pas de Vincennes. Parce que Vincennes, c'est une mairie de droite. Ils ne laisseraient pas faire ça. Mais Paris, bon, Vous connaissez la situation de Paris. Et donc, le bois de Vincennes dépend administrativement du bois de Paris. Et donc, tu as beaucoup de gens, notamment qui viennent d'Europe de l'Est, qui s'installent dans le bois de Vincennes et qui commencent à créer un mini bidonville. Ça, dans 10 ou 15 ans, c'est un bidonville. C'est comme ça que ça commence. Il faut bien que ça commence quelque part, un bidonville. Ben, ça commence comme ça, en fait. Ce sont des gens qui s'installent, qui posent une tente, puis ensuite, ils mettent. Ils posent un toit en tôle, des trucs en bois, des pneus, machin, et puis ils font cuire des trucs, et donc il y a des mini toilettes et tout, et ils commencent à s'installer, ça crée un mini village, et à la fin, c'est un bidonville. Bon. Mais quel est le premier réflexe des gens qui ont traversé illégalement les frontières de la France, Anaïs? Leur première frontière, leur premier réflexe, c'est de créer une frontière, en fait. C'est de mettre littéralement des barbelés autour de chez eux, pour pas qu'on rentre chez eux. C'est humain, en vérité. Parce que la nation France est une grande famille. Au fond, c'est le même mécanisme qu'une famille, mais à une échelle plus grande. Et il est naturel, normal et même sain de préserver le milieu ambiant, de préserver ce que nous sommes collectivement, à savoir un pays, la France, et des Français. Voilà. Donc, voici ma réponse à Proton Mail. C'est que ce que je dis, et je suis tranquille, hein. Je sais qu'on me crache dessus, qu'on m'insulte dans la rue, qu'on me traite de facho, peut-être même un jour je me ferai tabasser, peut-être même qu'un jour un fou furieux alimenté par cette propagande d'extrême gauche me mettra un coup de couteau, c'est possible, c'est dans l'ordre des choses, c'est un horizon probable pour moi. Même, je pensais dernièrement à faire un reportage à Grenoble, et je disais à celui avec qui je travaille, qui fait la pré-prop avec moi, je disais, mes problèmes de Grenoble, c'est que c'est très dangereux maintenant. Grenoble est vraiment... pris dans l'étau de la mafia, de plusieurs mafias qui sont autour de Grenoble. Je connais très bien Grenoble, j'y ai grandi jusqu'à mes 25 ans. Il serait maintenant très difficile pour moi de vivre à Grenoble. J'allais voir mes parents jusqu'à une période récente, jusqu'à ce que mon père décède. J'allais les voir très souvent et c'était chaud. Je devais mettre un chapeau, lunettes et tout, pas qu'on me reconnaisse dans la rue, parce que quand on me reconnaissait, c'était tendu, vraiment. Genre les mecs qui sortent et qui disent « Viens, viens, Échirolles, viens, tu vas voir ce qu'on va te faire et tout. » Je rappelle, à Grenoble, je perds pas le fil de mon raisonnement, mais juste j'ouvre des parenthèses. À Grenoble, c'est une ville où dernièrement, je le dis parce qu'il faut qu'on en ait tous bien conscience en tant que Français, à Grenoble, dernièrement, on a vu la vidéo d'un type qui se fait filmer par téléphone et qui dit « Voilà, je suis venu remplir un contrat, j'ai échoué, on m'a attrapé, je dis à tous les fils de pute qui m'ont envoyé, ben, ceux qui m'ont attrapé vont venir vous chercher vous aussi. » Et maintenant, je vais le payer de ma vie, voilà, faites pas ça, je dis à tous les jeunes, faites pas ça, je vais devoir le payer de ma vie. Et le mec, ensuite, deux secondes après, on le voit dans une voiture en train de se faire mitrailler, et les types mettent le feu à la voiture. Vous avez vu ça, Naïs?
Non.
C'était il y a 2 mois. J'ai vu ça, j'ai dit, Pablo Escobar. Mm. Pablo Escobar faisait ça. Pablo Escobar, lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il réunissait tout son cartel et il jetait les mecs dans la piscine attachés, comme les pirates. Mais maintenant, en 2026, Pablo Escobar le filmerait et mettrait ça sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et ça, c'est la France en 2026. Pour moi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou de voir ça en France. Des scènes que j'aurais pu voir dans les années 80 quand j'étais gamin en Colombie, le voir maintenant en France, c'est dingue. Bref, donc c'est Grenoble. Grenoble est dans cette situation-là. Donc moi, potentiellement, à Grenoble, il y a un univers où une voiture passe, freine, je suis en reportage, les vitres se baissent, une calèche sort de la voiture, me mitraille et repart. Il y a un univers où c'est possible, maintenant, en France. Il faut qu'on en ait tous bien conscience de ça. Moi, j'en ai parfaitement conscience. J'ai un gilet pare-balles sur moi quand je fais mes reportages. C'est quand même... Enfin, c'est de la folie. Que dit l'extrême gauche de ça, quoi? Des fois, je me réfléchis, je vois ces vidéos et je me dis, mais j'aimerais bien être dans la tête d'un mec d'extrême gauche pour comprendre ce qu'il se dit que c'est la pauvreté, vraiment? Il va jusque-là dans le déni. Donc, on est en voie de tiers-mondisation, ce qui fait que je prends beaucoup de risques et je me fais traiter de facho, je risque de me faire tabasser, de me faire tuer, ok, d'accord, très bien. Mais j'ai aucun problème avec l'idée que je sais au fond de moi que ce que je dis est sain, que ce que je dis va dans le sens du bien pour la France. J'en suis mais intimement convaincu, quoi qu'il m'arrive. Je n'ai aucun problème. J'ai ma conscience pour moi, comme me disait mon père. Je me souviens qu'une fois, en classe, J'avais eu un truc en troisième avec une prof de maths qui me faisait un peu chier. J'avais dit à mon père, voilà, il y a un sujet, quoi, il y a un machin avec cette prof de maths. Je ne me souviens plus quoi d'ailleurs. Il m'a dit, Vincent, est-ce que tu as ta conscience pour toi? Je lui dis oui. Il me dit, ben, c'est ça l'essentiel.
Quels sont les sujets sur lesquels l'écart entre la parole de la rue et le discours médiatique vous semble le plus criant?
Oui, évidemment, c'est ce sujet-là, je pense. C'est le fait que l'immigration est une chance pour la France. Je crois que ça, c'est déjà très difficile de tenir cette position. Ça sonne faux pour beaucoup de Français et ça sonnera de plus en plus faux. Faut bien comprendre que le lien entre immigration et délinquance est aujourd'hui démontré par les statistiques. Je renvoie toujours au compte X très important de Mark Vanguard. C'est le plus important des comptes X aujourd'hui, c'est celui de Mark Vanguard, qui met en évidence toutes les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur, de tous les ministères de l'Union européenne et des Nations unies, etc., et qui démontre très simplement et en fait très basiquement qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. C'est-à-dire que un étranger aujourd'hui en France est trois fois plus représenté dans les actes de délinquance grave que les Français. Étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la nationalité française. C'est-à-dire que si on rajoute les Français issus de l'immigration dans les actes de délinquance, ça fait péter le score. Ils sont 10 fois plus représentés, les étrangers d'Afrique et du Maghreb, dans les vols avec violence. 10 fois plus représentés que les Français. Voilà. Encore une fois, Français de branche et de souche, deux ensemble. Ça, ce sont les statistiques officielles. C'est le ministère de l'Intérieur que je recommande à chacun d'apprendre par cœur, parce que très utile face à un gauchiste. Et évidemment, tout de suite, l'argument de la gauche, c'est de dire, oui, mais c'est à cause de la pauvreté. Faux. Des études montrent et démontrent qu'à niveau socio-économique égal, un adolescent venant d'une famille issue de l'immigration a 3 à 4 fois plus de chances d'être représenté dans les actes de délinquance qu'un Français de souche. Donc, je veux dire, après, on peut fermer les yeux, évidemment, devant cette réalité, mais ça va aider personne de nier le problème. Moi, je crois que pour résoudre un problème, il faut commencer par pouvoir en parler, pouvoir regarder les choses en face et pouvoir en parler et dire, OK, on a fait une connerie. OK, on a cru ça. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. On fait marche arrière. C'est sain comme démarche. C'est d'ailleurs la démarche scientifique. C'est de dire, on émet des hypothèses, on fait des tests, et quand ça ne marche pas, on recule et on tente autre chose. Et c'est pas grave de se tromper. Il faut arrêter avec ça. On s'est planté. Nos dirigeants se sont plantés, plutôt. Mais les Français ont voté pour eux aussi. Ils ont une part de responsabilité que je ne nie pas. Les Français ont voté pour ça. Il faut dire qu'il y avait un rouleau compresseur médiatique très fort en France. On connaît la diabolisation de Jean-Marie Le Pen sur des décennies, puis ensuite de Marine Le Pen. Diabolisation qui marche de moins en moins bien. Donc on trouve d'autres voies pour essayer de contraindre ce vote contestataire. On essaie de l'enfermer dans d'autres pièges. En l'occurrence, ici, c'est évidemment de chercher des poux au RN en permanence. Bon, bref, c'est une technique. Ils ont, pour barrer la route au RN, ils ont raison de le faire, à la limite. Ils se défendent. Mais moi, je leur conseillerais plutôt à tous ceux qui nous dirigent depuis 40 ans de se rendre compte qu'en fait, ils ont fait une énorme connerie qui consiste à croire qu'en important des millions de gens en France, qui évidemment n'allaient pas s'assimiler parce que rien ne les incite à s'assimiler, l'humain est ainsi fait que quand ils se retrouvent en groupe nombreux dans un pays, il n'a aucune incitation à s'assimiler. Moi-même, je serais moi aussi pas du tout incité à m'assimiler. Par exemple, si j'allais en Algérie et qu'il y avait des millions de Français avec des boulangeries, que ça parlait français dans la rue, et que ça, j'aurais aucune incitation à m'assimiler. Donc c'est pas l'humain qui est en cause. C'est-à-dire que je dis pas qu'ils sont méchants. Je dis qu'on a créé un mécanisme qui fait qu'on arrive à une situation où il y aura des tensions communautaires énormes et que ça risque d'exploser. Voilà, tout simplement. Et donc je leur dis à tous ces gens-là, ben écoutez, en fait, vous avez fait une énorme connerie. Maintenant, est-ce que vous pouvez déjà, ce serait bien que vous en rendiez compte, ce serait cool, mais c'est pas forcément nécessaire. Juste, barrez-vous en fait. Moi, quand je vois Édouard Philippe et Attal qui reviennent toute honte bue. Les mecs, ça fait 10 ans qu'on a Macron. Ça fait 10 ans qu'on a sous les yeux votre politique. Et vous revenez. Mais moi, j'aurais honte. Mais honte à leur place. En fait, il n'y a plus aucun sens de l'honneur dans la politique française. Ça, c'est un truc aussi. C'est les mecs peuvent faire les pires conneries, se planter sur tous les sujets, et jamais ils l'admettent, jamais ils démissionnent, et au contraire, ils reviennent. Ils reviennent. Macron, lui, il croit qu'il va revenir en 2030, je sais pas quoi, là. Il veut revenir. 2032. Son plan, c'est de revenir. C'est délirant. Délirant. On pourrait parler des centrales nucléaires. Les mecs, ils ont fermé Fessenheim. Ils ont fait, c'est eux, ils ont fait fermer Fessenheim. En disant que oui, enfin, ils ont cédé à l'extrême gauche et aux écologistes, à l'anti-science écologiste, qui prétendait que c'était dangereux, que c'était polluant ou je sais quoi. Et ils ont fait fermer Fessenheim, ce qui était une énorme connerie en soi. Et là, il y a 3 mois, Macron se rend compte qu'en fait, il a découvert, le gars à 49 ans, qu'en fait, le nucléaire, c'est assez cool, que c'est même plutôt important pour la France, pour son indépendance énergétique, et que c'est une énergie décarbonée qui ne pollue pas, et qu'en fait, les Français, grâce à De Gaulle, ont fait le bon choix. Et il a découvert ça là, il y a 6 mois. Et maintenant, il revient dessus. Puis ils nous disent, ouais, mais en fait, les gars, vous êtes juste trompés pendant 10 ans. Est-ce que vous pouvez partir, dégager? Non, non, les mecs, ils reviennent en permanence. Je rappelle quand même que De Gaulle a démissionné parce qu'il a échoué à un référendum sur le rôle du Conseil économique et social. Le mec a échoué à un référendum sur un truc dont tout le monde ignore l'existence. Il a démissionné pour ça, quoi. Les types se plantent, ils sont à... Je sais pas, ils sont... Pour les... Je sais pas à combien ils sont dans les... Bref, ils arrivent... Je sais pas, Hollande, à la fin de son mandat, il était détesté par tout le monde, quoi. Il faisait 10% les sondages. Macron, c'est pareil, personne n'en veut. Il a failli se faire tuer là, Beyrouth. Il y a eu un attentat contre lui. Mais tout le monde s'en tape. Vraiment, personne n'en parle, tout le monde s'en tape. Preuve que, en fait... Bref, la situation française est quand même assez spéciale. Hein. Assez spéciale. Voilà, donc la chose qui est la plus éloignée dans le réel du discours médiatique, c'est l'immigration est une chance pour la France.
Pour terminer cet entretien, j'ai une dernière question. Parce que Vincent, vous filmez des gens d'horizons très différents. Mais malgré cela, est-ce qu'il y a un point commun qui transcende les clivages politiques et sociaux ?
Ouais, je pourrais répondre plusieurs choses. Il y a un truc particulier dans mes reportages que parfois même moi, je me pose la question. Il faut bien comprendre que je mets quasiment tout dans mes reportages. Quand vous regardez la version sur YouTube, il y a une version un peu plus longue pour mes contributeurs. Mais en gros, quand vous regardez la version sur YouTube, il y a à peu près 70% de mes interactions. 70% de mes interactions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'approche de quelqu'un, j'arrive à tirer quelque chose de lui. Et ça, c'est vraiment très mystérieux, y compris pour moi. Parce que je sais que c'est pas facile de parler aux gens. Pas facile du tout même. Souvent, je reçois des commentaires de gens qui me disent « Mais moi, à ta place, j'aurais fait mieux. » Je dis « Bah, vas-y. » Et en fait, quand les gens essayent, ils se rendent compte qu'il faut briser la glace, que beaucoup de gens ne veulent pas parler, qu'il est difficile d'aborder des sujets complexes avec des gens dans la rue, avec une caméra et un micro. D'ailleurs, il y a un truc très simple pour le comprendre, c'est regardez quel regard vous portez sur les gens qui sont pour SOS Baleine en danger, là. Quand les gens avec leur truc, personne n'a envie de leur parler. Personne. Même moi, j'ai pas envie de leur parler. Ben moi, je suis là, littéralement, SOS Baleine en danger, avec un micro et une caméra pour parler d'un sujet chiant aux gens. Et pourtant, j'arrive à chaque fois à interagir et à tirer quelque chose de chacun. Et c'est une réponse un peu, je dirais, particulière à ce que je fais, mais ce que je note, c'est qu'on a tous en nous quelque chose. Tous. Quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre situation sociale, quelles que soient même nos origines, on a tous en soi un trésor qui ne demande qu'à être révélé. C'est un peu, C'est vraiment ce que je ressens, moi, quand je suis sur le terrain. Je vois chaque personne, chaque individu, et je me dis, toi, si j'arrive à trouver la clé, je vais réussir à te mettre dans des conditions qui font que tu vas me révéler qui tu es et ce que tu as à dire profondément. C'est la maïeutique. C'est un exercice de maïeutique. La maïeutique, c'est ça, c'est par des questions, arriver à extraire la vérité d'un discours. Et c'est ce que j'aime dans ce que je fais profondément, c'est que j'aime explorer les mondes intérieurs des gens. Et donc si je devais trouver quelque chose qui nous relie tous, c'est ça, c'est qu'on a tous en nous une flamme, qui que nous soyons, et que une flamme que moi j'aime aller chercher, justement dans mes interviews. Voilà.
Merci infiniment Vincent pour cet entretien passionnant. Si ce que vous venez d'entendre vous a convaincu que ce type de journalisme mérite d'exister et de se développer, ce type d'entretien évidemment, Fauteuil Rouge mérite de continuer à vivre, rendez-vous sur www.frontieremedia.fr pour nous soutenir.